Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
D'être pays et poufias. Voilà comment parlent nos chroniqueurs avant l'émission. J'appelle Nicolas et Olivier. Bonjour, bonsoir.
Bonjour, bonsoir.
Elle l'a fait.
Bienvenue à la Conspiration des Planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus sur 92.1 FM. Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Au programme, effectivement, on va parler de Grosse Vulve. C'est la compagnie, ça ne s'invente pas, Clinic Organ Society, qui présentait le premier volet d'un triptyque sur la normalité. Le premier volet s'appelle Pré et ça se déroule au théâtre Varia. On ira du côté de la Balsamine pour Ravissement. Ravissement, un spectacle sur les mères célibataires, mais un spectacle plus onirique que réaliste. Ce sont deux sœurs, metteuses en scène et comédiennes, les sœurs Hullier, qui proposent ce spectacle. Et en avant-première, il y a une installation des sœurs Henri, donc deux duos de sœurs à la Balsamine. On ira au Poème pour un blind poète blues. Et enfin, on ira faire un tour du côté du Festival des Libertés pour un seul en scène explosif le 20 novembre. Et au Brigitine pour Messia Run, la danse du chaos. Et enfin, la reprise d'un seul en scène qui fait sourire Nicolas parce qu'on l'aime, c'est Fall Into the Show de Gwen Berou. Bienvenue donc à la Conspiration des Planches. Je me retourne vers toi, Olivier. Donc toi, tu es parti voir cette vulve. Hein,
ce premier volet de ce triptyque autour de la normalité, près ou la tragique histoire de Lala Ferrero, du fameux collectif Clinic Orgasm Society, à qui l'on devait, j'ai gravé le nom de ma grenouille dans ton foie et dont on a tous le souvenir parce que ça a vraiment marqué les esprits, tant c'était brillant, intelligent, plein d'humour. Ce que je n'ai pas du tout retrouvé ici dans ce spectacle. Voilà, le propos de près, c'est nous raconter l'histoire, c'est une narration de ce personnage, Lala Ferrero, qui est élevé par sa grand-mère et qui va découvrir qu'elle a un organe sexuel plus proéminent que la moyenne et qui grandit avec elle. Et donc, voilà, que faire avec cette différence? C'est un peu, c'est un peu voir comment elle évolue dans la société avec ses différences, comment elle évolue par rapport à sa sexualité dans la société.
C'est sur le mode de la fable.
Ce qui m'a dérangé, en fait, dans ce spectacle, c'est qu'il y a plusieurs modes. Donc, à la fois dans l'écriture du texte, ça part comme un conte, il était une fois. Ça va vers le genre du roman à l'eau de rose, à la Barbara Cartland. Il y a un peu de la bande dessinée, à un moment donné, sur l'écran vidéo. Ça vire aussi vers le concert ou un DJ set. Donc, il y a plusieurs modes qui sont explorés, à la fois dans le texte et dans la mise en scène, sans jamais prendre de distance par rapport à ces modes.
Mais Olivier, on est habitué à ce genre de nouvelle écriture de plateau où il y a un peu de tout, tu vois, tout fait matériau.
Oui, mais ici, il y a un peu trop de tout. Il y a un peu trop de tout et ça fait très brouillon. Okay. Il n'y a rien qui s'en dégage.
Moi, je me demandais comment on apporte justement l'image de la vulve sur scène qui grandit au fil de l'histoire.
Tout platement, par un postiche. Les comédiennes ont au départ un petit postiche. Et puis, lorsque Lala Ferrero est adulte, elle a une vulve qui lui recouvre la totalité du corps.
Est-ce qu'il y a un second degré ou quelque chose qui ose?
Je pense qu'il y a une volonté d'un second degré, mais moi, je ne l'ai pas du tout ressenti. Donc, les rires étaient assez faibles.
Combien sur scène?
Elles sont deux. Donc il y a Mathilde Desmarais qui est assez bien et Catherine Brevers qui m'a vraiment posé un problème au niveau du jeu.
Toi, tu l'as vu à la première?
Non. Okay. Je l'ai vu à la deuxième.
On dit toujours que c'est la deuxième où il y a un creux. Hein. Donc, bon, voilà, donc c'est tout frais.
Mais voilà, c'est pas très long non plus.
Ça ne sauve pas les options prix qui t'ont dérangé?
Non.
Et tu m'as dit que c'était vulgaire pour toi.
Voilà, par exemple, lorsque cette Lala Ferrero évoque sa découverte des règles, on a sur l'écran des grosses traînées de sang, mais voilà, c'est des seaux d'eau de sang qui tombent sur l'écran. C'est ce genre de platitude.
C'est gore.
Donc, c'est gore, mais c'est ça sans aller au-delà, sans aller vraiment dans le gore. Mm-hmm. C'est pas trash. C'est vraiment, voilà, on parlait du second degré. Mm-hmm. Moi, on ne va pas jusqu'au second degré. On reste dans le premier degré.
Mm-hmm. Enfin, si ça vous tente de voir un triptyque sur la normalité, le premier, ou en tout cas des postiches de vulve sur scène, ça reste quand même spectaculaire.
Oui, tout à fait. Et les trois parties sont indépendantes l'une de l'autre, donc on peut les voir.
Ça te rassure, ça rassure Olivier. Prêt à éviter, moi j'irais à voir ou à éviter, mais plutôt à éviter d'après toi, c'est juste que...
D'autant plus que le propos sur la normalité, qu'est-ce que la normalité aujourd'hui, comment vivre une différence dans la société, finalement il se retrouve à la fin du spectacle à nous sortir une morale bien pensante en nous disant que ce qui compte ce n'est pas le sexe mais c'est l'amour, les sentiments. Donc moi j'étais un peu consterné.
Olivier, consterné par Prêt, je vous le dis, à éviter au Théâtre Varia. Il faut de temps en temps dire qu'il y a des spectacles qui sont à éviter en Belgique. Voilà, c'est à voir
jusqu'au 27 octobre. Même si vous voulez l'éviter, ce sera jusqu'au 27 octobre. 3xw.varia.be pour toutes les informations.
Voilà, il faut quand même donner les dates. Retour avec Olivier. Olivier, alors, poème, plus de chance ou pas? Blind Poet Blues.
Eh bien, voilà, je suis retourné au poème que j'avais redécouvert, le poème 2, l'année dernière avec une mise en scène de Frédéric Dussen. Et j'avais été assez surpris de la transformation du lieu, qui est devenu beaucoup plus accueillant, beaucoup plus moderne, je vais dire. Et ici, ce qui m'avait intéressé dans ce spectacle, c'est que c'était autour de la Beat Generation, dont on a reparlé cette année avec le film sur la route de
Walter Salles.
Voilà. Plus, il y a eu plusieurs publications chez Gallimard, donc c'est un peu revenu au goût du jour. Donc voilà, je me suis dit, c'est quand même des classiques, allons voir ça, ce Blind Poets Blues. Autour de textes de Laurens Ferlinghetti et du poète belge Louis Savary, poète que je ne connaissais pas du tout, qui vient du Hainaut.
Ouais.
Qui écrit des aphorismes assez assez succulents. Et en fait, c'est un spectacle basé sur un poème qui date de 2001, écrit juste après les attentats du 11 septembre. Et je ne sais pas si c'est la traduction en français ou si c'est le poème original, mais je l'ai trouvé assez faible. Et heureusement qu'il y a cette insertion d'aphorismes de Louis Savary pour donner un peu de succulence à la langue aussi qui est distribuée par les deux comédiens, Christian Léonard et Jean-Claude de Ruder. Mm-hmm. Et puis après, au niveau de la mise en scène, c'est assez bricolé. Ça part bien. Donc on a sur la diffusion du générique sur l'écran vidéo. Mais le générique, il dure quasiment toute la durée du spectacle. Et donc après le générique, j'attendais quelque chose qui n'est pas venu. Heureusement, sur scène, il y a Marc Lelangue qui vient ponctuer les interventions des deux comédiens par des morceaux de blues. Et c'est vraiment très, très succulent, là.
Mais ça raconte quoi? C'est un poème lu? C'est un poème qui raconte le 11 septembre?
Ce sont des extraits, donc c'est pas la totalité. C'est un poème qui parle de la société aujourd'hui, qui dénonce un peu la misère du monde, la surpopulation, l'état actuel du monde qui est très critique. Et qui est illustré, malheureusement, de manière assez didactique par des images sur l'écran vidéo.
Je suppose donc qu'il y a la langue particulière de la poésie qui doit être dit différemment.
Oui, mais justement... Moi, je trouvais que le jeu des deux, notamment de Christian Léonard, était un petit peu daté par rapport à la langue du texte et que je n'ai pas bien entendu. Donc, c'était un petit peu trop emphatique pour moi.
Pourquoi Ferlinghetti? Il faut le rappeler, c'est parce que lui publiait lui-même les poèmes de Jacques Kerouac.
Voilà.
Et moi, ce que je voulais demander, c'est qu'est-ce qui reste finalement de cette Beat Generation? Parce que apparemment, c'est un texte de 2001. La Beat Generation, ça fait quand même quelques décennies maintenant.
Eh bien, justement, il ne reste pas grand-chose. Donc, rattacher ce spectacle à la Beat Generation, ça n'a pas beaucoup de sens. En plus, en ouverture, on nous met une chanson des Doors, qui sont quand même 20 ans plus tard. Et donc, l'esprit de Jack Kerouac ou de Allen Ginsberg, qui a été publié par Laurens Ferlinghetti, moi, je ne l'ai pas retrouvé.
Lui-même est un beatnik, mais bon, c'est comme le surréalisme. C'est un esprit comme ça qui couvre, qu'on peut retrouver au fil du temps. C'est pas parce que c'est dépassé qu'on ne peut pas aller faire un retour vers le passé et qui peut nourrir le présent, je veux dire.
Oui, tout à fait.
À un moment donné, on peut reparler même dans 10 ans, on pourra avoir essayé de trouver le souffle des beatniks ou bien le souffle des surréalistes sans tomber dans la caricature.
Là, mais le souffle est un petit peu...
Ou la pop, quoi. On a ça aussi avec la pop. Donc voilà, ce sont des esprits phares dans des œuvres. Et on retrouvera...
En tout cas, à lire les poètes et les écrivains de la Beat Generation.
Blind Poets Blues, le blues des poètes aveugles. C'est à découvrir au Théâtre Poème 2 jusqu'au 4 novembre, www.théâtrepoème.be.
La conspiration.
De retour dans la conspiration des planches.
Et on va directement à la Balsamine. Donc aujourd'hui, c'est la première de Ravissement des Sœurs Hullier, mais Olivier l'a vu hier en général. Donc général, c'est la représentation essai, un test avant la toute première, donc à prendre avec des grosses pincettes. Mais Olivier, tu...
Je me suis laissé ravir malgré les quelques imperfections et les quelques flottements encore dus à la générale par ce spectacle des Sœurs Hullier qui commence par un prologue où l'on voit une personne qui nous parle, voilà, qu'elle voit des mots qui flottent autour de sa tête et donc on sait que l'on va rentrer dans un univers mental. Mm-hmm. Donc après, on voit une scène d'une mère et de sa fille dans une cuisine en train de manger, en train de discuter, en train de jouer, et l'on sent la détresse de la mère par rapport à sa fille et de la fille par rapport à sa mère qui essaie de lui remonter le moral parce que la mère a vécu une rupture et elles se retrouvent toutes les deux. Et c'est un peu le propos du spectacle, c'est comment reconstruire du lien entre une mère et sa fille, entre une fille et sa mère, après l'explosion de la famille nucléaire, telle qu'on pourrait la connaître.
C'est autobiographique.
C'est un projet autobiographique.
Donc, les deux sœurs étaient chacune l'une avec un gars, ils ont eu un enfant, et ça a clashé à un moment donné. Elles ont été un peu surprises de se retrouver mères célibataires. Hein. Mais ici, ce qu'il y a, c'est apparemment très onirique. Elles m'ont dit que c'était pas du tout réaliste. On n'est pas dans un univers.
Du tout. Donc, il y a cet espace central, plus ou moins réaliste, avec la mère et la fille, avec l'excellente Marie Boss et la jeune comédienne Flore Disbeck. Et tout autour, dans un espace forestier, c'est une vraie forêt reconstituée, vont intervenir différentes scènes, plus ou moins courtes, une minute, 3-4 minutes, qui font intervenir d'autres rapports mère-fille. Et sans vraie réelle construction, donc c'est assez chaotique, assez déstructuré, c'est comme un puzzle, donc il faut qu'elle revienne plusieurs fois pour qu'on se rende compte de la rémanence du personnage, et à chaque fois on revient sur la scène centrale où il y a Marie Boss et sa fille qui jouent.
C'est un peu logique, non, dans l'espace mental, d'avoir quelque chose de très éclaté.
Tout à fait. Oui, c'est...
Ça perd en lisibilité.
Ça perd un peu en lisibilité, le rythme n'était pas encore installé hier, donc je pense qu'il va venir. Le jeu de certaines comédiennes n'était pas encore tout à fait ajusté, donc je pense que ça aussi, ça va être là ce soir.
Et surtout, ce qu'il y a, c'est que les spectacles vivent avec le public. Hein. Les comédiens ont une énergie, quand ils voient une salle bondée, ils sont dedans. Il y a aussi ça qui joue. Est-ce qu'il y a des hommes dans ce spectacle?
Il y en a un. Il y en a un qui joue le père, l'amant de la mère, qui convoite aussi la fille. Donc il y a beaucoup de choses qui sont exploitées dans le spectacle, dans le texte. C'est assez riche. Donc ça demande aussi le temps aux spectateurs, après le spectacle, de laisser infuser tout ce qui peut, tout ce qui gravite autour du texte, toutes les réflexions que l'on peut avoir par rapport à la famille.
Et toi, Olivier, en ton garçon, parce que c'est l'histoire d'une mère célibataire, on va dire, est-ce que tu ressens un propos?
Oui, parce que c'est aussi le rapport d'un enfant par rapport à sa mère en détresse. Et donc ça, je pense qu'on a tous, en tant que...
Une mère en détresse.
Non, mais voilà, une mère qui...
Une relation avec sa
mère.
Voilà,
c'est ça. Donc ça, on peut tous se raccrocher à ça.
Et est-ce qu'on est dans la fable? Parce que là aussi, la forêt, enfin, il était une fois. Silence radio. Alors, il donne de l'île de la tête.
Pas vraiment. C'est pas vraiment dans la fable. C'est vraiment plutôt dans la rêverie, dans le fantasmagorique, qui pourrait virer vers le cauchemardesque. Mm-hmm. Mais on est vraiment plutôt dans quelque chose du fantasme, de l'onirisme, du poétique. Le texte est très, très bien écrit.
Ce que j'allais dire, ce sont les Sœurs Hullier avec Clément Laloy. Elles ont écrit ensemble et elles ont fait aussi la scénographie.
Elles ont fait la scénographie. Alors, qui est
une vraie forêt sur scène.
Une vraie forêt sur scène, toujours impressionnant. C'est très soigné. Les lumières n'ont pas trop convaincu ni la musique, mais voilà, ça va encore sans doute s'ajuster par rapport à aujourd'hui. Ce qui m'a un peu perturbé, c'est que après trois quarts de spectacle, on change tout à fait de registre. Il y a un appartement qui débarque sur scène et c'est une garden party qui s'organise où les différentes personnages féminins qu'on a vus pendant tout le spectacle se réunissent et discutent comme peuvent se réunir des nanas et discutent voilà de comment
de
ça
mec.
Passe voilà de mecs, la grossesse, la sexualité et puis voilà ça se termine comme ça donc d'une manière un peu plus joyeuse.
Mais justement, elles sont parties donc quand elles ont eu leur histoire, leur clash, elles sont parties interviewer une anthropologue et des femmes célibataires et elles avaient cette matière, elles savaient pas comment l'amener sur scène, probablement dans cette soirée Tupperware ou gonzesse on parle mec et on essaie de comprendre ce qui arrive. En tout cas, c'est à voir jusque... Ça commence aujourd'hui et c'est à voir jusque...
Jusqu'au 27 octobre. Et c'est précédé, donc on peut voir en avant...
Avant spectacle,
une installation multi-écran d'Esther Henry. Donc, on connaît tous Marie Henry comme auteur du collectif TOC.
Qui est une écriture extraordinaire.
Voilà, ça s'appelle No Windows, Fenêtres, Il y avait In Our Bedrooms, avec l'accent.
Ça, c'est bien Marie Henry. Les titres, hein, parfois, on se demande. Tu peux le répéter, Olivier, parce que...
Et donc, c'est une installation sur trois écrans qui mélange vraiment le texte de Marie Henry, la typographie, la graphie, un vrai jeu sur aussi la manière de dire le texte, le rapport à l'image, donc ce qui est dit et comment il est illustré. C'est vraiment très, très jouissif.
Et ça dure une matière. Hein, le texte est une matière.
Tout à fait. Et ça vaut la peine de le voir en avant-spectacle.
Tu nous redis le titre ?
No Windows, Fenêtres, Il y avait In Our Bedrooms.
Donc, les sœurs Hullier et les sœurs Henry, c'est à la Balsamine jusqu'au 27
octobre. Et voilà, mais l'installation des sœurs Henri n'est à voir que cette semaine.
Ok.
www.balsamine.be.
Donc voilà, il y a l'éphémère, mais avant elles sont tombées amoureuses. Alors pour tomber amoureux, moi je vous emmène dans Fall Into the Show que Nicolas est parti voir. Pour nous, c'est Gwen Berou.
Et oui, dans Fall Into the Show, il y a Fall, la chute, et c'est ce dont elle a peur, Gwen Berou, dans ce spectacle, la peur de la chuter. Alors elle dit que pour se vacciner un petit peu contre cette peur de la chute, elle va chuter de toutes les façons possibles dans un seul spectacle. On tombe amoureux, on tombe enceinte, on tombe tout simplement, bref, on tombe de sa chaise, bref, toutes les chutes sont là possibles dans ce spectacle qui se veut comme une performance assez physique, mais aussi une réflexion critique sur l'art de la performance. Gwen Berou est assez connue dans ce milieu-là, notamment de la performance, elle s'est intéressée à ça, et d'ailleurs, ce spectacle commence assez bizarrement par une espèce d'entrée en matière conférencière, on va dire, où elle nous lâche des textes assez théoriques sur l'art de la performance. Alors là, j'imagine que bon, pas mal des gens dans le public sont déjà un petit peu lâchés, mais on est quand même un peu agrippé par son ton, par sa présence aussi. Elle est toute fine, elle est gracile, comme ça, avec des longs bras, des longues jambes, et elle nous explique petit à petit ce qui va se passer. On est là, installé dans une soirée. Moi, quand je l'ai vue, on était en demi-cercle autour d'elle. Je ne sais pas si c'est la même disposition dans tous les lieux et en tout cas au Théâtre de la Vie qui l'accueille. Et on apprend qu'on va participer à une espèce de loterie, comme ça, où le public sera amené à tirer des petites cordelettes autour de lui pour faire tomber eh bien, des points de départ pour ses chutes. En fait, elle va partir de chaque carton qui lui définit une citation, comme ça, et en même temps, des objets tombent du ciel, comme ça, du plafond, et elle va les utiliser pour décrire ses chutes et en dire plus sur l'amour, la vie et le théâtre également, puisqu'elle redessine un petit peu tout ce rapport au public et aussi tout ce questionnement sur la présence de l'acteur et sur son jeu sur le corps. Parce que c'est vraiment ça, moi, qui m'a impressionné dans ce spectacle. C'est le jeu sur le corps que fait Gwen Berou de manière très, très construite, mais avec une belle spontanéité, une légèreté et une aisance avec un texte très compliqué. Mais c'est pas à ça qu'il faut s'accrocher. C'est vraiment le tout, l'ensemble et l'ambiance qu'elle installe un petit peu dans ce Fall Into the Show qui est à revoir au Théâtre de la Vie. C'est un spectacle qu'elle a construit avec la compagnie Petite Âme, qu'elle a fondé avec Chloé Offler et Vincent Lécuyer également, qui l'ont aidé dans la construction de ce spectacle, qu'elle a écrit toute seule comme une grande aussi.
Et c'est son premier seul en scène, comme les Sœurs Hullier, c'est leur première mise en scène. C'est à voir, vraiment chaudement recommandé, elle a été nominée dans les seuls en scène, c'est à voir jusqu'au
26 octobre au Théâtre de la Vie, www.theatredelavie.be.
Alors moi je vous emmène au Festival des Libertés, hein. Ça démarre le 18 jusqu'au 27 et parmi les documentaires, les débats et les concerts avec un regard extrêmement engagé, réflexif, il était temps, Il y a deux, trois spectacles, dont celui du samedi, qui est le 20 novembre, de Lars Noren, Dan Tismer. C'est un spectacle qui avait été créé au festival aussi engagé de théâtre, le Festival de Liège. Et c'est Anne Tismer, qui est une comédienne qui veut désormais s'appeler performeuse allemande, qui est un monstre de scène. Elle est vraiment incroyable et elle joue en français. Alors c'est un seul en scène qui parle justement de ces gamins qui vont tirer dans leur école. Ici, c'était l'histoire, un fait divers allemand, et c'était Sébastien Boss, inconnu. Il est parti shooter dans toute sa classe, et je crois qu'il s'est suicidé après. Elle est seule en scène dans un espace assez brut, nous on l'avait vu à Liège. Elle a des combats de shoes et une arme au poing, et c'est pas ça qui dérange. Elle a un sac de sport avec ses armes. Ça fait pas kitsch, les armes, ça pourrait l'être, mais pas du tout. Et elle explique d'une façon tout à fait froide et glaciale comment elle va se préparer pour aller, on imagine à la fin du spectacle, qu'elle va aller shooter dans cette classe, et elle explique son regard sur la société, son aigreur et tout son délire mental qui fait qu'à un moment donné, elle va s'enfoncer et que c'est très clair pour elle et c'est censé qu'elle va aller dégommer tout le reste. C'est une fille, elle prend le rôle de Sébastien Bonne, ça ne dérange pas. Anne Tismer, elle est assez impressionnante et il y a quelque chose de très froid qui vous met une barrière face à ce monologue, à cette logorée qui est assez impressionnante. C'est ce samedi pour une date, c'est un spectacle qui date d'il y a 2-3 ans, donc ça ne va pas revenir souvent, mais c'est vraiment un petit bijou de seul en scène. Tu l'avais vu,
oui,
toi aussi, Olivier.
Aussi. C'est vraiment à voir.
On en reste, on en garde des souvenirs.
C'est court en plus. C'est...
Oui, c'est voilà, on est là, on vous donne la parole d'une heure, et puis après on se casse et on va shooter. Elle prend un sac de sport et elle se casse. Donc ça, c'est pour le 20 novembre, ce samedi, dans le cadre du Festival des Libertés. On vous emmène directement au Brigittine. Au Brigittine, là, c'est Messiah Run. Alors, Messiah Run, c'est une chorégraphie de Hans van den Broek. Hans van den Broek est un ancien de la bande à Alain Platel, des Balaissés de la Baie. Et il fait une chorégraphie sur le chaos ou sur l'idée de Messie, de la personne qu'on cherche dans cette époque assez déboussolante, pour nous faire avancer. Et en fait, au fil du spectacle, il avait envie d'introduire l'idée que finalement, on n'a pas besoin de Messie, on va se démerder comme on veut dans la vie. Alors, c'est un spectacle chorégraphique très étrange, parce que dans la scénographie, il y a plus de 80 chaises qui sont juste en avant-plan, donc les danseurs doivent se débrouiller avec ça. Il y a 6-7 danseurs qui sont extraordinaires. Moi, le propos m'a un peu plus mis en exergue, parce que je l'ai vu Overhoy, c'était pas agréable. Il y avait les 6 danseurs qui passent parmi les chaises, qui essayent de glisser entre, monter au-dessus, tomber. Donc il y a vraiment un travail très physique avec un son spatialisé, bruit urbain, bruit poétique qui nous traverse. Et on suit le parcours de ces danseurs, chacun à son moment de souvenir assez étrange. Il y en a un qui joue les clowns et qui interpelle le public en disant allons dans le bonheur, n'ayons pas peur. Il y a des gens qui racontent des souvenirs d'enfance assez ambigus, il y a des astronautes, il y a tout un univers un peu pop comme ça. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est comment on voit ces 6 danseurs déambuler dans une chorégraphie de chaises. Et ça reste impressionnant. C'est Messiah Run à voir au Brigittine. Est-ce qu'il nous reste quelques minutes?
Allez, encore 4.
Alors, qui a vu apparemment autre annonce? Et voilà, abattoir fermé, collectif
malinois,
donc collectif flamand, abattoir fermé, qui présente ici au Kai Theater A Brief History of the Hell. Alors, c'est un spectacle apparemment très pictural dans les photos qu'on en a vues, parce que ça parle d'un peu l'art contemporain et comment les prix montent, comment il y a une prétention, c'est apparemment dans l'ironie sur l'art contemporain, ce qui est bon de dire, ce qui est bon de voir. Et ça démarre aujourd'hui jusqu'à samedi. Abattoir fermé est un collectif assez gore, hein, là, par rapport à Clinic Orgasm Society.
Très visuel.
Très visuel et
très sensoriel aussi.
Apparemment, un spectacle donc qui oppose artistes, collectionneurs et critiques de l'art également.
Donc le débat sur l'art contemporain, version théâtre, abattoir fermé jusqu'à samedi. Et Nico, tu nous parles de la Bellone, toi, Sodome ma douce.
Ah oui, ça sera lundi et mardi prochain. Le texte de Laurent Godet est mis en scène par Vanessa Bonnet du côté de la Bellone, qui accueille ce spectacle, qui nous emmène vraiment dans Sodome et Gomorre, la fameuse histoire. histoires des deux villes qui ont basculé dans le péché. Et ici, une des survivantes de la dévastation de Sodome et Gomorre, eh bien, est là. Et son sentiment, c'est d'être enterrée vivante dans le sel. Mais un jour, quelque chose va la faire renaître, quelque chose venu du ciel va la faire renaître. Et c'est là qu'elle va nous évoquer le souvenir de sa ville natale, Sodome. Sébastien Amilon qui est sur scène. C'est une création qui a été créée, qui a été inaugurée donc en février 2012 lors d'une résidence à la Fabrique à Nantes. C'est à découvrir donc du côté de la Bellone les 22 et 23 octobre à 21h, www.bellone.be.
Voilà, ainsi se termine la conspiration des planches et résume le programme. Donc c'est vraiment les douleurs contemporaines hein, qui sont dans le théâtre. Donc la vulve prééminente pour parler de la normalité, les mères célibataires et la tristesse de se débrouiller avec un enfant quand le gars se casse, les beatniks, la poésie beatnik sur l'époque contemporaine, image à l'appui, Messiah Run sur le chaos et le messie de l'époque, le 20 novembre sur ces jeunes qui vont dégommer des gens dans leurs écoles, Fall into the show, l'amour mais version chute, et Sodome ma douce, on se fait enterrer vivant là carrément, je suis curieuse de voir comment ça se passe sur scène pour se faire enterrer vivante. Voilà, ainsi se termine la conspiration des planches. Merci Nicolas et Olivier, à la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Et bon spectacle.
Et n'oubliez pas, le podcast de cette émission, c'est sur demandezleprogramme.be, www.radiocampus.be également, pour toutes les infos sur les spectacles dont nous vous avons parlé. Très très belle semaine à vous. Conspiración.